Chapitre 37.
Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, Amy, disait Ben. Les autres filles, elles n'étaient rien pour moi. Des erreurs. J'ai compris que je me trompais il y a des années, et je t'ai attendu. Jusqu'au jour où ma patience a été récompensée. Il tendit vers moi une main ensanglantée pour me caresser la joue. J'essayais de reculer. Il n'y avait nulle part où aller. « S'il te plaît, ouvre la porte, Ben, » dis-je d'une voix qui se voulait assurée mais qui tremblait. « Bella, elle est blessée. Il faut la soigner tout de suite. S'il te plaît, Ben. » Il me regarda, poussa un profond soupir.
« Tu sais que je ne peux pas faire ça, Amy. »
« Je ne parlerai de toi à personne. Je dirai que Charlie m'a agressé, qu'il était fou, que je l'ai poignardé moi-même. » Regarde les coupures que j'ai sur tout le corps, ils me croiront.
Ce n'est plus pareil. Au début, quand je t'ai retrouvée, c'était bien. J'ai tout de suite compris que personne d'autre ne savait qui tu étais. Tu étais précieuse, intacte, tu m'appartenais.
Je ne déménagerai pas, je resterai ici. Tout peut continuer exactement comme avant. Je commanderai du tissu, tu pourras le livrer tous les jours.
Mais non, tu sais maintenant. La police sait. Ce n'est plus pareil.
Je fermais les yeux, luttais pour garder le contrôle de moi-même. Bella gémit à nouveau. L'entendre me redonna de la vigueur. Je ne comprends pas. Tu t'es passé de moi pendant 25 ans. Tu as enlevé ces autres filles. Manifestement, je ne suis rien pour toi.
Oh non, répondit-il immédiatement avec ferveur. Je n'ai pas arrêté volontairement. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Ben ôta sa casquette marron. Et pour la première fois, je vis le sillon qui courait sur le sommet de son crâne, une cicatrice difforme dépourvue de cheveux.
Voilà ce qui m'a arrêté. Autrement, je t'aurais poursuivi indéfiniment. Il y a 25 ans, Amy, tu aurais été à moi.
Oh mon Dieu, je venais de l'entendre. Ben ne ressemblait peut-être pas physiquement à mon père, mais si j'écoutais sa voix... Sa voix sérieuse et grave quand il essayait d'expliquer quelque chose de très important. Il parlait exactement comme mon père. Même ton, même rythme, même timbre. Avais-je perçu tout cela avant? Avais-je inconsciemment fait le rapprochement? Et l'avais-je laissé entrer dans ma vie et devenir mon seul lien avec le monde extérieur parce que la voix du sang était la plus forte et qu'une partie de moi s'était réjouie de retrouver la famille?
« Tout ce que j'ai toujours voulu. C'est quelqu'un qui ne me quitterait jamais. »
Expliquait-il maintenant avec la voix sérieuse de mon père qui continuait à sortir d'un crâne atrocement couturé.
« Quelqu'un qui serait obligé de rester. J'ai cru que ce serait ta mère, mais elle n'a pas compris. Ensuite, je me suis fait jeter en prison. »
Sa voix avait baissé, mais il reprit.
« Mais quand je suis sorti, je t'ai vu et j'ai compris. » Cette façon que tu avais de me sourire, Amy, d'agripper mon doigt dans ton petit poing potelé. Tu étais ma famille. Tu étais la seule personne qui m'aimerait toujours, qui ne partirait jamais, et j'étais tellement heureux. Jusqu'au jour où je suis venu, et où tu étais parti. Toute ta famille. Envolée.
Bella est blessée, suppliai-je. Je t'en prie.
Ça a été un moment terrible. Je savais, bien sûr, que tu ne m'aurais jamais quitté par choix. C'était évidemment ton père qui t'avait forcé.
Ben prit ma main, caressa mon poignet de ses doigts éclaboussés de sang.
Alors j'ai commencé à me renseigner. Une famille entière ne peut pas disparaître comme ça. Tout le monde laisse des traces. Mais personne ne pouvait rien me dire. Alors j'ai eu une idée. Mon frère allait avoir besoin d'un travail pour nourrir sa famille... Qui pouvait l'aider à en trouver? Son ancien employeur, bien sûr. Alors je suis entrée dans la maison du docteur Baddington. J'ai trouvé sa femme.
Quoi?
Je suis passée un après-midi. Évidemment, Madame Baddington a refusé de parler au début, mais quand j'en ai eu fini avec son chat, elle m'a raconté plein de choses. Sur le nouveau poste de ton père au MIT, une maison à Arlington, mieux encore... Elle n'a jamais parlé de ma visite à personne. Il faut dire que les choses que je lui ai faites ne sont pas de celles dont on parle en bonne société. Et puis, je lui avais garanti que si elle disait un mot, je reviendrais faire exactement les mêmes à son mari.
Oh mon Dieu.
Je suis partie pour le Massachusetts. J'allais te voir le soir même, mais il était tard, je me suis perdue et il m'est arrivé un truc de dingue. J'ai été agressée au volant de ma voiture. Mauvais endroit, mauvais moment, et quatre types qui m'ont passé à tabac. Ensuite, ils m'ont pris mes vêtements et ils... Et puis le trou noir. Pendant si longtemps. Petit à petit, je me suis rétablie. J'ai réappris à manger, à m'habiller, à me laver les dents. J'ai parlé avec de très gentils docteurs qui me disaient que j'avais eu un mauvais départ dans la vie, mais que j'avais désormais une deuxième chance. Je pouvais être qui je voulais d'après eux. Je pouvais complètement changer. Et pendant un moment, j'ai essayé. Ça paraissait une chouette idée. Je pouvais être Benji, dont le père était espion pour la CIA, et pas seulement un connard de poivreau qui avait tué sa femme avant de se faire sauter la cervelle. Ça me plaisait d'être Benji. Vraiment. Mais je me sentais tellement seule, amie. Il faut que tu comprennes ce que c'est. De n'avoir aucune famille. De n'avoir jamais personne qui t'appelle par ton vrai nom. Personne qui connaisse tout de toi tel que tu es réellement, et pas seulement la façade derrière laquelle on est tous obligés de s'abriter en société. Ce n'est pas une vie.
« Arrête ça !» murmurai-je, en cherchant à nouveau à lui faire lâcher ma main. « Arrête ! Arrête ! Arrête !» Mais il refusait de se taire. Il refusait d'arrêter d'exprimer, avec la voix de mon père, mes propres pensées, qui grouillaient comme des serpents dans ma tête.
J'ai découvert la rigole un jour où je me promenais dans le parc. Ça m'a suffisamment intrigué pour me construire là une petite cabane hors de la maison. Je m'en sortais bien à ce moment-là. J'habitais encore à l'institut, mais j'étais inscrit à l'école d'à côté. La rigole est devenue une cave, la cave mon bureau pour étudier, et puis un jour, je l'ai vue. Elle rentrait de l'école. Je l'ai vue et j'ai compris à son expression qu'elle m'avait vue aussi. Elle m'aimait bien, elle voulait être avec moi. Elle était celle qui ne partirait jamais.
« Tais-toi » essayai-je encore. « Tais-toi, tu es fou, je te déteste, mes parents te détestaient, je voudrais que tu sois mort. »
Au dernier moment, elle a changé d'avis. Elle a résisté. Elle a crié. Alors j'ai dû... Ça a été fini très vite, et après j'étais triste. Ce n'était pas ce que j'avais voulu. Il faut me croire, ami, mais ensuite j'ai eu une idée. Je pouvais la garder. Je savais exactement où, et comme ça, elle ne me quitterait jamais.
« Tu es malade !» dis-je en lui arrachant cette fois ma main.
Il ne sembla pas s'en préoccuper. « J'ai essayé encore, » continua-t-il sobrement. « Encore et encore et encore. À chaque fois, la relation semblait prometteuse, mais ça s'envenimait rapidement. Jusqu'au jour où j'ai compris. Je ne voulais aucune de ces filles stupides, inutiles. Je te voulais, toi. Alors je me suis souvenue de ce qu'avait dit Madame Baddington, et je t'ai retrouvée. Mon amie, ma précieuse, précieuse amie. C'est passé si près cette fois-là. J'ai davantage pris mon temps, j'ai commencé par des petits cadeaux pour gagner ta confiance. Ce sourire sur ton visage à chaque fois que tu ouvrais une boîte, que tu découvrais le trésor. C'était exactement ce que j'avais imaginé. Exactement ce que tu voulais. Tu allais être à moi.
Il s'arrêta, soupira,
fit une pause. J'en eus presque un sanglot de soulagement. Mais il n'avait pas encore fini. Comment aurait-il pu en avoir fini alors que nous savions tous les deux que le pire était encore à venir ? Roger m'a surpris. Je me croyais malin, mais les grands frères, ils ont le don de deviner ce que les petits manigancent. Et il savait. Bien sûr qu'il savait. J'ai compris qu'il allait falloir agir vite, mais avant même que je réalise ce qui m'arrivait, les flics avaient découvert ma planque dans le grenier. Et au lieu de t'emmener, je me suis retrouvée à fuir la police. Le temps que je me ressaisisse, c'était fini. La maison était là, mais il n'y avait plus personne. « Ce connard de Roger, » expliqua-t-il, « avait toujours été sacrément intelligent. Évidemment, je lui ai fait payer. »
Ben avait levé la main vers sa tête. Il caressait sa cicatrice machinalement. Un tic censé le soulager,
ou le rappel d'un souvenir toujours cuisant.
« Tu as kidnappé Dory, » murmurai-je.
« J'étais obligé, » dit-il en haussant les épaules. « Il me fallait quelqu'un. Je ne voulais pas être seule, et puis elle t'avait volé ton médaillon, je ne pouvais pas la laisser faire ça. »
« Elle n'a pas pris le médaillon, pauvre type. Je lui ai donné. Elle était mon amie, et j'ai partagé avec elle parce qu'on fait ça entre amis. Tu es ignoble, abjecte, et jamais je ne serai avec toi. Ça me donne envie de vomir quand tu me touches. »
« Oh, amie, » soupira-t-il, « tu n'as pas de raison d'être jalouse. Dory n'était pas celle que je voulais vraiment. Elle n'était qu'un moyen. Je l'ai enlevée, et Roger est revenu vers moi. »
Je clignais plusieurs fois des yeux sous le choc. « Tu as revu mon père ? À Arlington ?»
Roger est revenu à la maison. Comme je savais qu'il le ferait, à une époque il y a très longtemps, Roger m'aimait. Il se cachait avec moi dans le placard et me tenait la main pendant que nos parents se disputaient. « Tout va bien, » me disait-il. « Je ne laisserai rien t'arriver, je te protégerai. » Et puis un soir, notre père est entré dans la cuisine. Il a vu notre mère et il lui a tiré 3 balles dans la poitrine. Boum, boum, boum. Il s'est retourné. Il m'a vu ensuite. Il a levé l'arme. Je savais qu'il allait tirer. Mais Roger l'a empêché. Il lui a dit de reposer l'arme, que s'il voulait vraiment tuer quelqu'un, ce qu'il avait de mieux à faire, c'était de se tuer lui-même. Et c'est exactement ce que notre père a fait. Se demeurer à poser le canon contre sa tempe et à presser la détente. « Adieu, papa. Bonjour, la pension. » Sauf qu'à la pension, Roger a disparu. Il avait sa classe, ses amis, sa vie. Il m'a laissé tomber. Comme ça. Alors j'ai attendu dans la maison d'Arlington, parce que je savais à ce moment-là ce que j'avais toujours su. Que Roger reviendrait. Qu'à nouveau, ce ne serait plus que lui et moi, avec un pistolet.
« Tu as essayé de tuer mon père. »
Ben me regarda. Il secoua tristement la tête, toucha sa cicatrice. « Oh non, ami. Ton père, mon cher frère, a essayé de me tuer. »
Dernière ligne droite. Bobby et Didi remontaient à Hanover en courant, slalomaient entre les piétons, ignoraient les klaxons des taxis. La nuit tombait, la rue se peuplait à mesure que les restaurants ouvraient pour la soirée. Bobby et Didi se faufilaient entre les ados qui jacassaient sur leur portable, les mères avec des poussettes, les riverains qui promenaient leurs chiens. Didi tenait un bon rythme, Bobby commençait à faiblir. Pas de doute, dès cette affaire bouclée, il traînerait ses fesses à la salle de sport. Toujours pas de nouvelles d'Annabelle. Il se servit de sa panique grandissante pour augmenter sa foulée. Il courait. Je ne croyais pas Ben. Mon père avec un pistolet. Même Monsieur Petracelli avait dit qu'il avait les armes à feu en horreur. Après le récit de la soirée avec ses parents, je comprenais pourquoi. Mais apparemment, même pour mon progressiste de père, l'enlèvement de Dory avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il s'était débrouillé pour se procurer une arme et était retourné dans la nuit à Boston pour retrouver son frère. « Roger, je t'en prie, n'y va pas. Roger, je t'en supplie, ne fais pas ça. » D'après Tommy, Ben, les deux frères s'étaient affrontés dans l'obscurité de mon ancienne maison. Tommy avec le pied de biche dont il s'était servi pour entrer, mon père armé d'un petit pistolet.
« Je ne l'ai pas pris au sérieux, » me racontait Ben. « Roger ne pouvait pas me faire de mal, il m'avait sauvé, il m'aimait. Il m'avait dit qu'il prendrait toujours soin de moi. Mais là, il avait l'air tellement fatigué. Il m'a demandé si j'avais enlevé cette petite fille, si j'en avais enlevé d'autres. Que pouvais-je faire ? Je lui ai dit la vérité. Que j'en avais kidnappé 6, que je les avais emballés dans du plastique et que je les gardais comme une petite famille bien à moi. Et que ça ne suffisait toujours pas, je te voulais toi, ami. J'avais besoin de toi, je n'aurais pas de repos tant que tu ne serais pas à moi. Autrefois, je croyais, m'a dit tranquillement Roger, que l'inné n'avait pas vraiment d'importance, que l'acquis pouvait toujours l'emporter, que ce soit par l'éducation reçue des parents ou même pour quelqu'un comme moi, par l'éducation que je me suis donnée à moi-même. Avec du temps, de l'attention, du respect, chacun de nous pourrait être celui qu'il voulait. J'avais tort. L'ADN compte. La génétique est vivante, notre père revit en toi. J'ai répondu à mon frère que c'était fascinant, étant donné que c'était lui qui tenait l'arme. Il a accepté ça, il a même hoché la tête, comme si ça lui paraissait logique. « Exact, il a dit, parce que de moi-même je ne me serais jamais cru capable d'une telle chose. » Ensuite il m'a tiré dessus. Tout simplement. Il a levé l'arme, il m'a mis une balle dans le crâne.
Les doigts de Ben effleurèrent sa cicatrice.
Le choc est une chose étrange. J'ai entendu le bruit, j'ai senti comme une brûlure dans mon front. Mais je suis restée debout longtemps, enfin, je crois. Je suis restée debout et j'ai regardé mon frère. « Je t'aime », je lui ai dit. Et puis je suis tombée. Il s'est approché de moi. « Promets-moi que tu ne partiras jamais », j'ai dit. Et il est sorti. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Je me suis évanouie, j'ai perdu connaissance, quelque chose comme ça. Mais quand je suis revenue à moi, je me suis rendu compte que je pouvais marcher, alors je suis partie. J'ai marché jusqu'à ce qu'un type m'arrête et me dise « Eh, vous savez quoi? Je crois que vous avez besoin d'un médecin. » Il a appelé une ambulance. 6 heures plus tard, les chirurgiens ont retiré une balle de calibre 22 qui avait ricoché à l'avant de mon cerveau. C'était il y a près de 25 ans, et depuis je ne ressens plus grand-chose. Ni bonheur, ni tristesse, ni désespoir, ni colère, ni même solitude. Ce n'est pas une vie, mon ami chéri.
Le récit de Tommy semblait toucher à sa fin. J'étais encore glacée d'horreur. Que mon père ait tiré sur son propre frère. Que Tommy ait survécu. Que la vie des deux frères ait été prise dans un tel engrenage de violence. « Tu ne ressens rien ?» demandai-je timidement. « Rien du tout ?» Tommy secoua la tête. « Tu n'as plus suivi d'autres filles ?»«
Je ne peux pas tomber amoureux. »
« Alors tu n'as pas besoin de moi ?»
« Bien sûr que si, tu es ma famille, on a toujours besoin de sa famille. »«
Ben... »«
Tommy, je veux te l'entendre dire. Ça fait tellement d'années. »« Allez, ami, pour ton oncle, laisse-moi l'entendre de tes lèvres. »«
Peut-être que j'aurais dû lui faire plaisir. Mais quand il m'a demandé de prononcer son nom, j'en ai été incapable. »« J'étais piégée dans mon propre appartement, en sang, épuisée. » Ma chienne moribonde dans les bras. Refuser son nom à mon oncle était le seul pouvoir qui me restait. Je fis non de la tête, et mon cher oncle Tommy, qui ne ressentait aucune émotion, se pencha vers moi pour me gifler. Mes lèvres se fendirent. Je sentis le goût du sang. Je l'aspirai et le recrachai vers lui. « Je te déteste! Je te déteste! Je te déteste !» criai-je. Son poing s'abattit sur ma tête et mon crâne rebondit sur la porte avec un craquement. « Dis-le » rugit-il. « Va te faire foutre !» Il arma son bras, mais cette fois-ci je l'attendais. « Eh Ben » criai-je. « Attrape !» Et je lui lançai Bella en priant comme jamais je n'avais prié, pour que même un fou dangereux ait le réflexe d'attraper. Bobby fut le premier à entendre le cri. Il était à quelques immeubles de l'appartement d'Annabelle, 20 mètres devant Didi. Il essayait encore de se persuader qu'il y avait une explication au fait qu'Annabelle ne réponde pas au téléphone, qu'évidemment elle allait bien. Puis il entendit le cri, et passa la surmultiplier. La porte de l'immeuble d'Annabelle s'ouvrit d'un seul coup. Un jeune homme se précipita dans la rue. « Police ! Police ! Que quelqu'un appelle la police ! Je crois que le livreur du PS essaie de la tuer !» Bobby s'élança dans les escaliers, pendant que Didi sortait son téléphone pour appeler des renforts. Ben recula sous le poids de Bella, et pendant ce temps j'arrivais enfin à hurler, un cri suraigu de pure frustration. Je m'en voulais de sacrifier ma meilleure amie. J'en voulais à Ben de m'y forcer. Je me jetais sur la porte et m'attaquais frénétiquement au verrou. Je défis les deux premiers pendant que Ben laissait tomber Bella et agrippait l'arrière de ma chemise. Je me retournais et lui assénais un coup de coude dans la tempe, en voyant valser ses lunettes. Il tomba en arrière. Je trouvais la chaînette. « Allez, allez, allez !» Mes doigts tremblaient trop fort. Il refusait de coopérer. Je pleurais comme une hystérique. Je perdais mes moyens. Alors je les entendis. Des pas lourds dans l'escalier, une voix familière tant attendue. « Annabelle ! Bobby ! » arrivais-je à répondre avant que Ben ne m'attaque pas derrière. Je tombai lourdement, mon nez s'écrasa contre la porte. Les larmes me montèrent aux yeux, un autre cri de rage sortit de ma gorge. La porte trembla, Bobby se jetait dessus. Mais elle tenait, bien sûr qu'elle tenait, parce que j'avais choisi cette porte pour sa solidité avant de lui adjoindre une demi-douzaine de verrous. J'avais bâti une forteresse pour me protéger, et voilà qu'elle allait me tuer.
Annabelle ! Annabelle ! Annabelle ! Rugissait Bobby, impuissant de l'autre côté. Puis la voix éraillée de Tommy, cuisante à mon oreille. « C'est de ta faute, ami. C'est à cause de toi que j'ai fait ça. Tu ne m'as pas laissé le choix. » De très loin, j'entendis mon père. Ses interminables discours, ses sermons incessants. Quelquefois, quand on a peur, c'est difficile d'émettre le moindre son. Alors casse des choses, tape du poing sur le mur, lance des meubles. Fais du bruit, chérie, bats-toi. N'arrête jamais de te battre. Tommy qui m'attrapait les épaules, Tommy qui me jetait à terre, Tommy qui brandissait triomphalement le cran d'arrêt ensanglanté de Charlie. « Jamais tu ne partiras. Je vais tirer !» cria Bobby. « Écartez-vous de la porte ! 1, 2 !» Plaqué au sol, j'arrachai le pendentif de mon cou. Tommy leva son couteau. Je défis d'un coup sec le fin capuchon métallique de mon bijou en verre et jetai les cendres de mes parents au visage de Tommy. Il se redressa de toute sa hauteur en se frottant furieusement les yeux. Et Bobby ouvrit le feu. Je vis le corps de Tommy tressauter, 1, 2, 3, 4 fois. Puis Bobby ouvrit d'un coup de pied ma porte fracassée. Au lieu de s'effondrer, Tommy se tourna vers le bruit et chargea comme un animal blessé. Je me levai d'un bond. Bobby esquiva vers la gauche. Tommy franchit à toute vitesse la porte fracassée, heurta la rampe du 5e et battit l'air avec les bras pour reprendre son équilibre. J'eus l'impression qu'il allait y arriver, alors je lui assénai un solide coup par derrière, et en digne fille de mon père, je regardais mon oncle faire une chute mortelle.